VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. La Gambie a été admise de nouveau au sein du Commonwealth. Aujourd'hui, la demande officielle faite par Adama Barrow, le président, le mois dernier, pour que la Gambie rejoigne le Commonwealth, a reçu le soutien unanime des membres de l'organisation. Cette décision porte de nouveau à 53 le nombre d'États membres du Commonwealth. La Gambie sera invitée à assister au sommet de l'organisation qui se tiendra à Londres en avril prochain. L'ancien président Yahya Jammeh avait décidé en octobre 2013 de retirer son pays du Commonwealth, qu'il avait qualifié d'extension du colonialisme, à la consternation générale. Le président de la Commission de l'Union africaine a fustigé aujourd'hui à Pékin l'enquête du journal français Le Monde, selon laquelle la Chine a espionné le siège de l'Union africaine en Éthiopie, dénonçant des mensonges et plaidant pour une coopération sino-africaine renforcée. Moussa Faki Mahamat est en visite à Pékin pour discuter d'un approfondissement des relations entre l'Union africaine et le régime communiste, ainsi que pour inaugurer une représentation permanente de son institution dans la capitale chinoise. Au Tchad, 10 partis d'opposition qui avaient soutenu un appel à manifester mardi ont été suspendus pour 2 mois pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence. Dili Diko.
Les activités de 10 partis politiques d'opposition sont suspendues pour une durée de 2 mois, a déclaré le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahamat Bachir. Il avait prévenu mardi que les partis qui tenteraient de défier l'autorité de l'État seraient suspendus. Parmi les partis suspendus figure le Parti démocratique du peuple tchadien, mené par le député Djimet Clément Bagao, leader de la marche avortée de mardi. Il avait affirmé que des manifestants ont été visés par les tirs de la police pendant la marche, mais les forces de l'ordre ont démenti. Une autre marche pacifique est prévue aujourd'hui, jeudi, mais les autorités ont annoncé son interdiction. En réponse, les syndicats ont appelé les établissements de santé publique à suspendre le service minimum, alors que la grève générale des fonctionnaires est entrée dans sa 2e semaine. Les syndicats contestent les coupes sur le salaire des travailleurs du secteur public et un nouvel impôt sur le revenu. Cette grogne sociale a pris des allures de fronde contre le régime du président Idriss Déby Itno.
Au Burundi, depuis janvier, tous les fonctionnaires ont vu leur salaire amputé pour permettre aux autorités de financer l'organisation des élections de 2020. Ce prélèvement va durer pendant 2 ans, selon une ordonnance ministérielle. D'après la presse locale, en plus des prélèvements directs sur leur salaire, les fonctionnaires de plusieurs ministères ont été contraints de cotiser de l'argent qui sera versé dans une banque par leur ministre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les élus républicains et démocrates du Sénat ont annoncé avoir conclu mercredi un accord budgétaire qui prévoit le relèvement du plafond des dépenses fédérales et du budget de la défense d'environ 300 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années. Cette mesure de financement temporaire est la 5e à être présentée au Congrès depuis le début de l'année fiscale en octobre. La précédente, votée le 23 janvier après le shutdown de 3 jours, n'autorise le financement de l'État fédéral que jusqu'à ce jeudi. La mesure ne contient cette fois aucune disposition relative au financement de la réforme de l'immigration au cœur du bras de fer entre républicains et démocrates. L'homme d'affaires américain Elon Musk se rapproche de son rêve de coloniser la planète Mars suite au lancement mardi de la fusée la plus puissante du monde, Falcon Heavy de SpaceX. Ce visionnaire a montré au monde entier qu'il était capable de mettre sur orbite de gros satellites. Nathalie Barge a joint l'astronome Pierre Bracci à l'Observatoire de l'Université de Genève.
Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'ils arrivent à envoyer une fusée et récupérer les 2 boosters. Et ça, je dois dire que du point de vue technologique, c'est fort. Pour rappeler une chose, c'est qu'elle peut envoyer 60 tonnes en orbite basse, alors que les Européens qui sont en train de construire une fusée Ariane 6, ce sera une fusée qui sera à peu près 3 fois moins puissante. Les Américains, avec le système SLS qui dure depuis je ne sais combien de temps, n'ont toujours pas réussi à envoyer leur fusée hyper puissante qui devrait envoyer à peu près le même genre de poids.
En matière de coûts, est-ce qu'il arrive à vraiment, on va dire, casser les prix? Et est-ce que cela, justement, permettra plus de progrès en faisant ce type d'économie?
Alors là, là, c'est peut-être pas encore tout à fait gagné, hein, parce que justement, je parlais d'Ariane 6, là, la fusée européenne. Eux, ils devraient arriver à peu près, pas beaucoup plus cher que la fusée Ivy de Elon Musk. Elle, ça sera pour 2020, apparemment. Donc, il a quand même un petit peu d'avance, mais du point de vue coût, c'est pas encore tout à fait gagné, même si, comme je vous dis, là, il vient de, quand même de frapper un grand coup, et puis qu'il pourra envoyer, en fait, des charges un peu plus lourdes.
En revanche, est-ce que cela permettra finalement à la NASA de se passer de l'aide des Russes, notamment par rapport à leur vaisseau Soyouz?
Ouais, alors Elon Musk, il a réussi à envoyer une fusée, mais il n'a pas encore réussi à envoyer des êtres humains. Et pour envoyer des êtres humains, je ne sais pas encore si on peut dire qu'il a gagné. Parce que les Russes, avec leur fusée Soyouz, eux, c'est devenu quelque chose de, on va dire, quasiment machinal. Hein. Je veux dire, ils envoient les hommes dans la station spatiale. Donc quand ils nous promettent d'envoyer des hommes sur Mars en 2024, moi, je serais quand même très prudent.
Et le véhicule flottant dans l'espace, la fameuse voiture, là, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors là, c'est plutôt un grand coup de pub, hein, je veux dire, d'aller mettre sa voiture dans l'espace. D'abord, un, je vois pas l'intérêt, et deux, il y a déjà assez de déchets comme ça dans l'espace. Et il y a 2 ans, les Chinois ont perdu un satellite. Ce satellite est rentré en contact avec un petit déchet, et même à, vous voyez, à 28 000 km/h, eh bien, ça a fait exploser le satellite. Donc voilà, il a pas voulu mettre un vrai satellite dedans pour ne pas risquer la vie de ce satellite. Parce que les satellites, ça peut vite être 100, 200, 300, voire 500 millions de dollars. Il a dit, bah voilà, on va faire comme s'il y avait un satellite pour montrer qu'il était capable, avec cette fusée, de mettre quelque chose en orbite autour de la Terre. Je pense que la prochaine, il va avoir des clients pour pouvoir mettre en orbite des satellites avec cette grosse fusée, cette fusée très puissante, où il pourra mettre des gros satellites en orbite.
L'astronome Pierre Brachy à l'Université de Genève. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui une réunion à huis clos sur la Syrie pour discuter d'une trêve humanitaire d'un mois réclamée par les représentants d'agences de l'ONU basées à Damas. Le point avec Morgane Guiriec.
Et cette réunion a été demandée par la Suède et le Koweït. Des dizaines de civils ont encore péri hier sous les bombardements sans répit de l'armée syrienne. Le régime de Bachar al-Assad mène depuis des mois des frappes meurtrières contre 2 bastions rebelles, la Ghouta orientale aux portes de Damas et la province d'Idleb dans le nord-ouest. Il n'y a aucun progrès pour permettre à l'ONU et à ses partenaires d'accéder aux zones assiégées, a dénoncé l'ambassadeur suédois Olof Skog. Mardi, les agences onusiennes basées à Damas avaient réclamé une cessation immédiate des hostilités pour au moins un mois dans toute la Syrie. Selon les Nations Unies, un cessez-le-feu humanitaire permettrait de livrer une première aide vitale et d'évacuer des centaines de malades. Plus de 13 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire pour survivre, dont au moins 6 millions de déplacés.
La justice du Bangladesh a condamné aujourd'hui la chef de l'opposition, Khaleda Zia, à 5 ans de prison pour corruption. Premier ministre à 2 reprises, présidente de longue date du Parti nationaliste du Bangladesh, Madame Zia est poursuivie pour avoir détourné 21 millions de taka, environ 206 000 euros, d'un fonds créé pour un orphelinat. Le parquet avait requis la prison à vie. Ce jugement signifie que la veuve de l'ex-président Zia Rahman, assassinée en 1981, sera vraisemblablement empêchée de se présenter aux élections législatives prévues pour décembre. Elle a la possibilité de faire appel. Le procès de Salah Abdel Salam à Bruxelles pour une fusillade avec des policiers remontant à mars 2016 à la fin de sa cavale a repris aujourd'hui en son absence et sa défense doit plaider dans la journée. Présent lundi au premier jour du procès, le seul membre encore en vie des commandos djihadistes ayant attaqué Paris le 13 novembre 2015 avait fait savoir le lendemain qu'il ne souhaitait plus comparaître. Son avocat Stephen Marie a toutefois accepté de continuer à le représenter. Et puis la date de l'élection présidentielle au Venezuela a été fixée au 22 avril prochain, a annoncé le Conseil national des élections quelques heures après la suspension des discussions entre le gouvernement et l'opposition. La tenue de ce scrutin anticipé, avancé de plusieurs mois, avait été annoncée fin janvier par l'Assemblée constituante qui indiquait qu'il se tiendrait d'ici la fin du mois d'avril. L'opposition a dénoncé une manœuvre visant à faciliter une réélection du président Nicolas Maduro, d'autant que la Cour suprême a interdit à la principale coalition de l'opposition, la Table de l'Unité démocratique, de présenter un candidat unique. Jean-Roger Billon à ce micro. Au prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.